les grands débats.
Radio de la paix. Ben Diakité.
Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Le Débat, c'est sur Radio de la Paix. Aujourd'hui, dans le cadre de nos émissions d'échange, nous allons parler des élections à venir en Côte d'Ivoire, mais principalement des actions de la société civile. Les élections de 2025 en Côte d'Ivoire constituent un moment crucial pour la consolidation de la démocratie et de la paix sociale. Historiquement marquée par des tensions, ces échéances nécessitent une implication forte des acteurs non étatiques, notamment les organisations de la société civile. Ces dernières jouent un rôle fondamental dans la sensibilisation citoyenne, la veille démocratique, la prévention des conflits et l'observation électorale. Que peuvent entreprendre les organisations de la société civile pour contribuer efficacement à des élections démocratiques et apaisées en Côte d'Ivoire en 2025? Pour débattre du sujet, nous recevons M. Mamadou Kouma. Il est le président du conseil d'administration de la Convention de la société civile ivoirienne. Nous recevons également M. Abraham Yoroba Denis. Il est le président de l'APDH, Action pour la protection des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Nous recevons également Mme Marie-Flore Begou. Elle est la coordinatrice nationale du consortium des organisations de la société civile ivoirienne, les organisations féminines, bien entendu. Nous recevons également M. Jean-Marc Ovi. Il est le coordonnateur du WANEP en Côte d'Ivoire, le réseau ouest africain pour l'édification à la paix. Bonjour à tous. Comme je le disais tantôt en introduction de cette émission, nous allons parler des élections qui vont venir dans 4 mois en Côte d'Ivoire. Mais nous allons parler principalement des actions de la société civile. Qu'est-ce que vous inspire les élections qui arrivent en Côte d'Ivoire dans 4 mois? Quand vous observez l'environnement, quelles sont les images, les mots qui vous reviennent? Nous allons débuter avec vous, Madame Marie-Flore Begou, vous qui êtes donc du consortium des organisations féminines de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous inspire les élections présidentielles en Côte d'Ivoire? C'est en octobre prochain.
Merci beaucoup, Monsieur Ben Diakité. Merci encore à la Radio de la Paix qui travaille, n'est-ce pas, pour que la voix de la société civile ivoirienne soit entendue, qui travaille également à ce que les positions soient davantage conciliées pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la cohésion en Côte d'Ivoire. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, nous sommes à 4 mois des élections présidentielles. Et ce que nous, en tant qu'organisation féminine, nous observons, c'est qu'on a du travail à faire. Il y a encore du boulot à faire. Quand on regarde un peu le paysage sociopolitique, on va le développer tout à l'heure, on se dit qu'en tant que femme, qu'en tant que mère, en tant que fille, nous devons descendre dans l'arène, nous devons travailler pour que les élections à venir se passent, n'est-ce pas, dans un environnement paisible et surtout inclusif.
Monsieur Ovi Jamarc de WANEP, si vous avez entendu comme nous, Madame Flore Begou dire qu'il y a du travail à faire et qu'il faut qu'on descende dans l'arène. Vous, en tant que coordonnateur donc, de WANEP, quel est votre regard sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire en ce moment?
De prime abord, je vous remercie pour l'invitation et l'opportunité que vous nous donnez d'exprimer notre vision, notre point de vue et nos aspirations pour la Côte d'Ivoire en cette année électorale. Il faut dire que fort est de constater que les années électorales ou les cycles électoraux en Côte d'Ivoire ont toujours suscité une attention particulière en interne comme à l'extérieur, tant le pays jusqu'à présent n'a point connu de transition pacifique, de transition politique pacifique. Et les derniers exemples qui ont été émaillés de violence et de perte en vie humaine laissent penser qu'il faut aujourd'hui avoir une attention particulière sur le processus en cours. Notre appréciation de celui-ci d'ailleurs est que, au fur et à mesure que nous approchons du scrutin, nous remarquons une accélération de l'activité politique, une recrudescence des discours parfois qui contiennent des éléments auxquels il faut prêter attention pour ne pas alarmer les populations, mais aussi une recrudescence des alliances et de tout ce qu'il y a comme activité politique. Voilà, les différents partis cherchent à s'accorder sur la meilleure stratégie pour pouvoir concourir au fauteuil présidentiel. Alors, d'un niveau sécuritaire, nous, pré, per et post-élection, nous constatons généralement qu'il y a une recrudescence de violence électorale, ce que justement nous souhaitons endiguer. Pour l'instant, nos radars nous ont permis de relever quelques événements, mais plus de l'ordre de la manifestation politique, de discours à caractère haineux, mais pas encore d'incidents qui nous alarment quant à une tournure assez problématique que ce processus pourrait prendre. Quoi qu'il en soit, on veille toujours et l'on pense que respectant les lois et permettant une certaine ouverture dans le dialogue, tout se passera bien.
Monsieur Yoruba Denis, vous êtes le président de l'APDH Côte d'Ivoire. Votre regard sur la situation, sur l'environnement sociopolitique en Côte d'Ivoire à l'aube de l'élection présidentielle.
Merci, Monsieur Ben. Je voudrais, à l'instar de mes collègues, remercier la Radio de la Paix pour cette invitation et surtout pour cette opportunité qu'elle donne à la société civile de s'exprimer, de donner son point de vue quant aux futures élections qui arrivent. Pour répondre à votre question, le sentiment qui nous anime en pensant aux élections de 2025, en tout cas pour nous, pour notre part, c'est un sentiment d'inquiétude. Nous ne voulons pas alarmer les gens. D'ailleurs, les Ivoiriens sont habitués à ce genre de climat. Donc, ce n'est pas nous qui allons les alarmer. Il nous faut dire ce que nous voyons, ce que nous sentons. La semaine dernière, d'ailleurs, l'organisation a fait un communiqué dans lequel nous avons invité les acteurs clés de la vie politique en Côte d'Ivoire de faire en sorte qu'il y ait un consensus. Nous avons invité les hommes politiques, la société civile et notamment les autorités à organiser un dialogue national à l'effet d'aller à un consensus et à des élections apaisées. Parce que ce que nous sommes en train de voir vraiment ne nous disait rien de bon. Tant les tensions sont en train de s'exacerber chaque jour à travers les discours des hommes politiques qui, eux, sont ceux qui drainent le monde derrière eux. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, la confrontation est encore au niveau verbal. Mais dès là, à l'arrivée à une confrontation effective, le chemin n'est plus très long. Donc, nous en appelons vraiment à la retenue et à la sagesse des uns et des autres.
Monsieur Kouma Mamadou, vous êtes le président du conseil d'administration de la Convention de la société civile. Votre prédécesseur, j'allais dire, Monsieur Abraham Yoruba Denis, a dit que la situation permettait à l'APDH d'alerter et de dire « attention » parce que les discours sont de plus en plus vifs. Alors, quel est votre regard en tant que coordonnateur de la société civile ivoirienne sur cet environnement qui prévaut à 4 mois de l'élection présidentielle?
Merci. Rapidement, je voudrais, à l'instar de mes prédécesseurs, retirer aussi nos remerciements à la Radio de la Paix, qui est notre radio désormais, qui, de l'espace qu'il nous offre. C'est un espace d'expression. La société civile a beaucoup à dire, elle fait beaucoup. C'est le lieu même de rendre hommage à tous les acteurs de la société civile qui font ce qu'ils peuvent dans un environnement qui n'est pas toujours aisé. En tout cas, moi, je salue les efforts des uns et des autres. Cela dit, la situation sociopolitique à quelques mois des élections, le président Yoruba l'a dit, et je partage entièrement ce point de vue. Nous, il y a longtemps que nous sommes dans les élections, nous ne sommes même pas habitués à cette atmosphère avant les élections. J'ose croire jusque-là que c'est le jeu des acteurs politiques qui jouent à se faire peur. Et si nous restons au stade de débats contradictoires, tant mieux, parce que c'est ça aussi l'essence de la démocratie, du débat démocratique. De là à aller vers des antagonismes qui peuvent remettre en cause le fondement même de toute l'architecture qui a été bâtie, c'est en cela que ça pourrait être préoccupant. Donc, Nous sommes préoccupés par la situation, mais nous observons ça avec beaucoup d'optimisme. Les Ivoiriens sont extraordinaires. Au-delà de tout cela, vous verrez, on trouvera toujours le moyen de nous retrouver et d'aller vers des élections apaisées. Je suis convaincu qu'avec l'action que nous menons, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, on fait beaucoup de choses dans la discrétion. Alors, vous nous donnez l'occasion de mettre ça en lumière, de rendre cela audible et visible. Tant mieux.
Merci beaucoup à vous, Monsieur Kouma, pour ces explications sur la situation. Messieurs les acteurs de la société civile, vous avez dépeint la situation, vous avez alerté, on a compris. Et vous avez aussi noté que les acteurs de la société civile, les politiques généralement, étaient sur le terrain et faisaient des meetings, des activités. Alors les populations et nous, les hommes des médias, on dit qu'on ne sent pas trop la société civile. Or, elle devrait bouger en même temps que les acteurs, puisque le processus électoral, c'est avant, pendant et après les élections. Mais dans cette phase, on ne sent pas trop la société civile. On ne vous entend pas. Qu'est-ce qui explique un peu ce silence? On va commencer avec vous, M. Kouma.
C'est un jugement que je ne trouve pas objectif. La société civile fait un travail de tous les jours, un travail permanent. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai salué l'engagement des uns et des autres. Les acteurs politiques, en revanche, ce sont des activités saisonnières, épisodiques. C'est vrai, ils semblent faire beaucoup de bruit, beaucoup de démonstrations, beaucoup de spectacles. Mais nous travaillons, c'est un travail d'éducation, de sensibilisation. Nous travaillons tous les jours à être de véritables forces de proposition.
Mais comment ça se manifeste? C'est-à-dire au-delà de la déclaration.
C'est un travail d'éducation.
Est-ce qu'on a des éléments probants qui nous montrent qu'effectivement la société civile, via des activités, est engagée dans le processus électoral?
Ce que les gens peut-être recherchent, ils veulent nous voir agir en même temps que les politiques. Mais je l'ai dit, nous, notre action s'inscrit dans la durée. Ce ne sont pas des actions épisodiques. Ce ne sont pas des actions spectaculaires, mais c'est des actions efficaces.
Lesquelles? Quelles sont ces actions?
Les actions de sensibilisation, d'éducation que nous faisons tous les jours, les plaidoyers que nous faisons tous les jours. Et ça, peut-être que nous n'avons pas suffisamment de moyens pour rendre cela audible et visible. C'est à juste titre que nous avons salué l'initiative de Radio de la Paix, qui nous donne l'occasion, que cet espace d'expression, il nous permet d'être plus audible et peut-être même plus visible.
Alors, sur la même question, M. Yoruba Deni, on ne vous entend pas, on ne vous voit pas ou on ne vous sent pas trop?
Peut-être qu'on ne nous entend pas trop, mais le trop n'est pas toujours bon. Il faut dire qu'il y a un problème effectif auquel la société civile est confrontée, notamment dans les pays africains et en Côte d'Ivoire. Le vrai problème, c'est le financement des organisations de la société civile. Vous savez que les organisations de la société civile ne sont pas financées. Toutes leurs activités qu'elles mènent sur le terrain, c'est avec des financements étrangers. Même pour faire des sensibilisations, pour faire des plaidoyers, pour faire même des porte-à-porte, c'est que souvent c'est avec des financements étrangers. Donc, quand ces financements que nous obtenons après des rédactions de projets ne sont pas orientés vers des activités précises, vous voyez que c'est difficile pour la société civile de le faire. En ce qui nous concerne, par exemple, à l'APDH, nous avons souvent utilisé les déclarations pour appeler les hommes politiques à l'apaisement, pour appeler les autorités à agir dans tel ou tel domaine pour avoir la paix. Mais à part cela, toutes les actions que la société civile mène, elle mène ces actions sur financement. Et quand les financements ne sont pas suffisants ou ne sont pas énormes, vous voyez qu'il est difficile d'aller se faire. Il est difficile de se faire voir. Ici, par exemple, nous avons la chance d'être invités aujourd'hui par la Radio de la Paix. Mais même pour avoir une action ou bien une présence dans un média, il faut souvent donner quelque chose. Et ce n'est pas évident. Même pour inviter les médias pour venir couvrir une action, il faut donner quelque chose. C'est souvent par manque de moyens que la société civile ne se fait pas trop entendre. Cela ne veut pas dire qu'elle ne travaille pas. Ce qui est différent des hommes politiques et des autorités qui ont vraiment tous les moyens, publics comme privés, dont ils disposent pour agir dans le sens où ils veulent mener leurs actions.
Monsieur Jean-Marc Ovi du WANEP, si. C'est vrai que M. Yoruba Deni a parlé du problème de financement des activités des organisations de la société civile, mais l'élection est un processus. Est-ce que les acteurs de la société civile sont suffisamment formés du processus, comprennent et maîtrisent ce processus-là?
Effectivement. L'élection soit un processus avec ses différentes étapes qu'il faut soi-même maîtriser afin de permettre à tous ceux que nous souhaitons toucher, à nos populations cibles, de comprendre. Et je puis vous dire que la société civile ivoirienne jouit quand même d'une certaine ancienneté, expérience avec des personnes, d'ailleurs même ici présentes aussi, qui ont cette connaissance du processus et qui ont, au fil du temps, pu établir une réciprocité avec les organes en charge de la gestion des élections de façon générale. Si bien que il existe une société civile qui est formée, qui a les armes pour aller sur le terrain et sensibiliser les personnes et qui le fait déjà depuis le début du processus. Pour notre part, et je le dis avec un peu au nom des organisations de la société civile, membres du réseau et membres du groupe national de réponse électorale que nous avons mis en place et qui contient 10 organisations de la société civile, nous sommes engagés depuis la période de début de la révision de la liste électorale à travers les séries de sensibilisation, à travers l'alerte précoce, donc le suivi quotidien de la situation sécuritaire, politique, mais aussi du processus. Et ce sont des personnes qui témoignent d'une meilleure compréhension du contexte électoral et du processus. Ce sont des notes d'analyse sécuritaire qui sont produites à la destination des partenaires pour saisir les enjeux locaux et nationaux de ces élections. Donc il y a des actions qui sont faites et comme nos illustres prédécesseurs ont eu à le dire, le temps de réaction n'est peut-être pas apprécié de tous, mais il peut se justifier par la pertinence des initiatives que nous menons sur le terrain, dans la mesure où aujourd'hui il y a assez de choses qui se préparent. Nous passons au parrainage, il y a une observation du parrainage qui est faite à travers notre mécanisme d'alerte précoce et auquel les organisations partenaires prennent part également. Ce sont des notes, des rapports qui sont produits, qui sont partagés à qui de droit. Il convient de rappeler aussi que peut-être que l'on attend la société civile dans l'extravagance, dans le m'as-tu vu, dans des déclarations choc qui pourraient donner de la matière finalement aux personnes pour dire « Ah, voilà ce qui se passe ». Est-ce vraiment le sujet, l'objectif de la société civile? Je pense que si notre sujet principal est de garantir la paix et la cohésion sociale, il y a un discours aussi, il y a une méthode, il y a une manière de faire qu'il faut adopter, que nous avons adopté, raison pour laquelle sur certains éléments, on peut penser qu'on ne sent pas la présence de la société civile, mais je puis vous assurer qu'elle est bel et bien présente et que l'ensemble du processus, même après le scrutin, selon le nombre de tours, seront suivis. Il y a des activités en cours, il y a d'autres qui viennent. Et effectivement, je me permets de revenir un peu sur le sujet du rétrécissement des financements. C'est une réalité au regard de la structuration des organisations de la société civile de manière générale. On n'est pas fataliste dans la mesure où, pour toutes ces personnes qui veulent voir la société civile engagée, plus forte, il faut se rappeler que c'est moi plus ma voisine, plus mon voisin qui constitue la société civile et l'ensemble de nos voix qui constituent la voix de la société civile. Donc il y a assez de choses que l'on peut faire de façon spontanée, de façon même bénévole, de façon engagée et notre voix va être portée sans aucun doute à travers les canaux comme Radio de la Paix par exemple.
Madame Marie-Flore Begou, vous êtes la coordinatrice nationale du consortium des organisations féminines de la société civile. Dans votre introduction à ce débat, vous avez dit il y a du travail, il faut qu'on se retrousse les manches. Quelle est la part que la société civile doit-elle prendre dans ce processus, dans ces élections qui arrivent?
Merci beaucoup. Il faut dire que les élections, c'est un moment assez important dans la vie d'un pays. C'est un moment également qui forge la démocratie, n'est-ce pas, et le développement dans un pays. Donc cela sous-tend une action de participation, d'inclusion et, n'est-ce pas, de synergie d'action. Alors, en tant que société civile, de par notre pouvoir de régulateur, effectivement, nous sommes sur le terrain, nous travaillons. Il faut dire que les organisations féminines, depuis, sont sur le terrain dans notre consortium. Nous menons des activités à l'intérieur du pays, des sensibilisations, des panels, des grains d'échange et de discussion que nous menons au niveau, n'est-ce pas, de nos communautés. Mais il faut le dire également, la question du financement qui a été soulevée tout à l'heure, c'est une question assez importante qu'il faut souligner pour ma part. Et hier, j'étais dans une rencontre de haut niveau où nous avons souligné cette question pour nous en tant que société civile qui demeure un handicap dans notre participation au processus électoral. Il faut dire qu'en 2020, c'est vrai que nous avons connu les soubresauts que nous avons connus, mais il y a du travail qui a été fait par la société civile parce qu'en ce moment, nous étions, n'est-ce pas, soutenus par des organisations internationales qui ont porté, n'est-ce pas, la voix de la société civile, de sorte que nos actions étaient visibles. Nous avions une portée à peu près nationale, de sorte qu'on savait la trajectoire de la société civile, on savait ce qu'elle faisait sur le terrain, on savait comment est-ce que la société civile suivait, n'est-ce pas, le processus. Mais aujourd'hui, avec le retrait de certains de nos grands bailleurs, il faut dire que la société civile est devenue en griffe orpheline. Parce qu'on a le processus de parrainage qui est en cours. Mais est-ce que la société civile, dans son ensemble, suit véritablement ce processus? Moi, je vais m'interroger. Parce qu'en son temps, on avait des missions avec la CEI, on avait des cadres de collaboration. Je me demande si ces cadres-là continuent. Parce que je me rappelle bien que la société civile avait participé à l'enrôlement à travers les sensibilisations. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne sent pas la société civile? Aujourd'hui, on a également des missions diplomatiques, le système des Nations Unies qui est sur place. Mais pour ma part, peut-être que c'est un regard de profane, mais je ne vois pas le système international qui sont présents en Côte d'Ivoire, qui voient la situation des sciences sociopolitiques en train de soutenir la société civile pour qu'elle agisse. C'est vrai, moi j'ai une organisation, nous sommes limités dans l'espace. Mais l'action que je mène, c'est vrai qu'elle va porter. Mais celui qui est peut-être à Daloa, dans un campement, quand je dis je travaille à Daloa, c'est une localité qui est bien circonscrite. Je peux être dans la ville de Daloa, ou bien dans la sous-préfecture, ou bien dans un village, un campement là-bas. Mais à côté, le voisin qui est à côté ne saura pas que je suis passée dans le village. Dans le village. Donc la question du financement aujourd'hui devient une question véritablement à discuter. Moi, je me dis qu'il est temps qu'on discute. Pourquoi est-ce que la société civile ivoirienne, c'est vrai qu'il y a des partenaires qui sont là, mais de façon visible, ne bénéficie pas d'un appui conséquent pour agir à un niveau assez important? En son temps, on avait des têtes de pont qui travaillaient, qui sillonnaient. Mais aujourd'hui, on n'a pas cette caravane aujourd'hui. Il faut créer ce sentiment-là que nous sommes présents. Et moi, je pense qu'il faut réfléchir à comment intégrer la société civile dans ce processus. Je vois que monsieur le président de l'APDH a parlé de déclaration. C'est vrai, il faut déclarer. Mais nous sommes combien? Mon père qui est quelque part à Balayo dans le village là-bas, est-ce qu'il a entendu cette déclaration? Je ne pense pas. Mais si nous sommes dans un processus de caravane, d'intensification, de communication, je pense qu'on aurait atteint beaucoup et apaisé, n'est-ce pas, les tensions. Donc je pense que la question du financement, c'est une question assez importante qu'il faut discuter.
D'accord.
Mais toutefois, nous sommes présents, nous travaillons et nous pensons que nos actions ont de l'impact.
Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.
Merci beaucoup, Madame Marie-Flore Begou, pour cet éclairage. La question du financement était vraiment une question transversale dans la réussite et dans l'impact de vos actions. Monsieur Kouma, au-delà de la question du financement, le problème aussi qu'on a, c'est que la société civile a laissé le champ des élections aux politiques, de sorte que quand c'est bloqué aux politiques, on n'a pas d'autre voie. Or, c'est quelque chose qui concerne toute la nation. Comment faire pour que le champ des élections ne soit pas une chasse gardée des hommes politiques?
Merci. La question du financement est une question importante, essentielle, je dirais même centrale. Mais c'est l'aspect visible de l'iceberg. Il y a une question de fond. Alors, tant que nous réfléchissons là-dessus, je disais tantôt, hier, les partenaires nous disaient, écoutez, vous n'avez pas besoin de courir après le financement national, les subventions de l'État, parce que ça pourrait réduire votre champ d'action, votre champ de manœuvre. Et effectivement, en son temps, les partenaires nous ont soutenus dans le fonctionnement, les charges de fonctionnement de nos organisations, et ça nous a permis, en tout cas, de faire beaucoup de choses. Mais on s'est rendu compte que ces mêmes partenaires, on a vu que l'appui qu'ils nous donnaient, c'était toujours conditionné. Eux-mêmes, ils tentent de nous manipuler, ils tentent de nous orienter dans un sens ou dans un autre.
Dans la question de fond pour nous, il faut que le travail que nous faisons, qui est un travail citoyen, soit reconnu d'abord dans nos états respectifs. Pour nous, ça, c'est fondamental. Mm-hmm. Beaucoup ont tendance à penser que quand on est acteur de la société civile, tous ceux qui sont là, et en tout cas les acteurs que nous connaissons, c'est des gens d'un certain niveau intellectuel. Quand vous voyez ce qu'ils ont comme profil, plan professionnel, au plan intellectuel, au plan académique, ben ce sont des profils vraiment respectables. Mais ils prennent de leur temps pour consacrer ça au travail de la société civile. Il faut que l'État reconnaisse le travail de la société comme un travail citoyen. Si c'est reconnu, il pourra être soutenu. Nous disons, au dialogue politique, les dirigeants de leur politique, on a toujours dit, mais pourquoi l'État donne des subventions, à quoi des subventions aux partis politiques? On sait ce qu'ils font avec. Quand ils ont des subventions, c'est l'argent du contribuable. On leur demande de former les citoyens, mais ils ne forment que des sofas. Le résultat est sur le terrain. Et peut-être que ça va changer, mais ils ne rendent même pas compte. Ils prennent cet argent des millions, ils ne rendent pas compte, ils ne font pas le travail qu'il faut. Nous qui faisons un travail au quotidien, nous n'avons pas les mêmes moyens. Mais je vous jure, pendant les débats, l'ensemble des partis politiques ne nous ont pas suivis. Donc c'est un travail de tous les jours. On nous a dit qu'avec la nouvelle loi, que ça allait régler la question du financement. Nous attendons de voir. Donc c'est un problème extrêmement important. Si le travail que nous faisons n'est pas reconnu, n'est pas soutenu, ça ne peut pas marcher. Je vous dis, il y a beaucoup de grandes zones qui vont fermer bientôt. Nous fonctionnons comme des entreprises, on a des charges. Et maintenant qu'on dit que même on rentre à compte à la Cour des comptes, alors que nous n'avons pas les moyens qu'il faut.
Je reviens à ma question. Aujourd'hui, comment on peut faire entendre de façon différente la voix de la société civile sur le processus électoral? Parce que les voix qu'on entend ou les solutions qui sont proposées, c'est seulement des acteurs politiques.
Le parti comment vous pouvez faire les moyens de l'État, ouais. Les partis de l'opposition reçoit des subventions de l'État. Il dit, nous, société civile, nous n'avons aucun moyen. Il a dit...
Est-ce qu'au-delà du moyen, il n'y a pas un problème de crédibilité sur le discours, sur le comportement aussi de la société civile?
On nous demande que les moyens pour qu'on se fasse entendre. D'ailleurs, si nous n'avons pas ces moyens, la tentation peut naître. Si quelqu'un peut vous donner un peu d'argent, vous transformer, orienter votre discours, c'est parce qu'il est conscient que vous n'avez pas le moyen qu'il faut. Donc l'autonomie, l'indépendance de la société civile est, en tout cas pour notre part, liée aussi aux moyens. Et ces moyens, on ne veut pas de favoritisme. On veut que l'État traite convenablement les organisations de la société civile, vraiment qui le méritent, qu'on leur donne les moyens qu'il faut. Il peut, par exemple, nous aider à faire face à nos charges de fonctionnement, ne serait-ce qu'avoir un siège, avoir un minimum pour payer le personnel permanent qu'on exige. Il y en a qui ne peuvent pas le faire. Que voulez-vous qu'ils aillent dire? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire s'il n'y a pas tout cela?
Monsieur Yoruba Deni, APDH, sur la question, comment faire entendre la voix de la société civile comme une autre voix que celle des politiques?
La réponse à cette question, à notre avis, elle est simple. Et nous recourons toujours à ce qu'on a appelé la gouvernance démocratique dans notre pays. Vous savez, vous avez parlé de crédibilité, etc. Mais la réalité, c'est que la vision démocratique de nos autorités et des populations, en tout cas des personnes qui sont en charge ou qui ont certaines responsabilités, qui peuvent prendre certaines décisions, cette vision démocratique, elle est étriquée. Vous savez, on ne peut pas faire de démocratie sans démocrate. Je crois que c'est Friedrich Ebert qui le disait. On ne peut pas être dans un pays dit démocratique alors qu'il n'y a pas de démocrate. Quand nous examinons le comportement des hommes politiques, quand ils sont dans l'opposition, on voit leur comportement. Quand ils sont au pouvoir, on voit aussi leur comportement. Alors, les autorités sont appelées à gouverner l'État, à agir pour l'État. Il faut qu'elles se rendent compte que les organisations de la société civile sont des organisations, surtout des organisations de défense des droits de l'homme, sont des organisations d'utilité publique, puisque c'est un statut que les autorités ont la possibilité d'accorder aux ONG. Quelle organisation de la société civile a déjà reçu ce statut d'utilité publique? Je n'en vois pas. Or, nous avons montré que nous sommes sensibles à tout ce qui touche à la nation. Nous avons montré que nous pouvons mener des actions qui peuvent aider la nation à aller de l'avant, qui peuvent aider la population à aller de l'avant. Mais aucune organisation n'a eu de statut d'utilité publique pour avoir un financement. Alors qu'il y a des organisations de la société civile qui ont ces statuts et qui travaillent à leur manière. Mais je veux parler des organisations de défense des droits de l'homme qui sont pour la plupart ici. Aucune organisation de ce genre n'a le statut d'utilité publique. Normalement, notre loi fondamentale qui fait de la société civile une composante essentielle de la démocratie devrait pouvoir accompagner cela par des actions. Donc, si vous ne sentez pas la société civile agir, c'est parce que la société civile n'a pas de moyens pour agir. Aujourd'hui, que peut faire une organisation qui est confrontée au soutien même de son siège, qui n'a même pas quelqu'un qui puisse être secrétaire, alors que nous sommes interpellés chaque jour, nous sommes appelés, la population a besoin de nous. Tout à l'heure, j'ai déjà reçu 2 appels ce matin pour des personnes qui ont des problèmes et qui demandent l'intervention.
Dans ce cas, quel est ce rapport incestueux, j'allais dire, que vous entretenez avec les acteurs politiques, société civile et politique? Pourquoi la société civile, dit-on, fait le jeu des politiques, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition? Et on dit même que chaque parti politique a sa société civile. Monsieur Kouma.
Effectivement, les partis politiques, chaque parti politique cherche à avoir sa société civile. Mais j'ai expliqué qu'est-ce qui peut amener des athlètes de la société civile à être proche de certains partis. Quand vous n'avez pas les moyens, vous êtes fragilisé. Mais ce n'est pas une raison. Malgré cette situation, nous faisons l'effort de garder notre dignité. Je pense que, comme je l'ai dit d'entrée, la vraie question, c'est la reconnaissance même du travail citoyen de la société civile. Tant qu'il a dit, Irubat, on ne peut pas faire de démocratie sans démocrate. La démocratie relève des questions de gouvernance. Vous-même, vous ne reconnaissez pas l'autre jambe de notre démocratie, c'est la société civile. Notre démocratie est unijambiste. C'est pour ça qu'elle est comme un monstre. Elle ne marche pas. Elle ne fait que sautiller. Il faut qu'on renforce l'autre jambe de la démocratie, qu'est la société civile. On ne commande pas, on ne demande pas de faveur, mais que l'État du Côte d'Ivoire, avec l'argent du contribuable, reconnaisse que ce que nous faisons, on fait un travail énorme. Peut-être à une autre occasion, on pourra vous faire la démonstration de la contribution de la société civile au progrès socio-économique du pays. On a les chiffres, des études ont été faites dans ce sens. Nous travaillons à faire avancer, à faire progresser notre pays, mais il faut que ce soit reconnu et que les moyens conséquents puissent suivre.
Jamakovi, sur la question, comment la société civile peut entretenir des rapports juste avec le pouvoir politique et sans être instrumentalisé, comme on le dit?
D'accord. De prime abord, je me permets de revenir sur quelques éléments relevant qu'il ne serait pas juste, selon moi, de dire que la société civile est finalement, du moins en Côte d'Ivoire, une instrumentalisation de la sphère politique. Par contre, ce qui serait juste de dire, et c'est une réalité qui n'est pas propre à la Côte d'Ivoire, mais propre à toute démocratie, il y a souvent des organisations, des personnes, se disant de la société civile, mais qui en réalité ont des agendas politiques. Et ces personnes-là, ces organisations-là, il est aussi de la responsabilité de la corporation de mettre en lumière lorsque justement on constate qu'en réalité, ces personnes jouent un double jeu. Voilà, il y va de notre crédibilité. Je souhaitais revenir aussi sur le sujet du financement et je partage vraiment l'ensemble des avis. Le financement que l'on attend, s'il ne vient pas, est-ce à dire qu'on ne fait rien? Si la réponse est oui, eh bien, je pense que ce sera peut-être la piètre excuse qu'on ait trouvée pour ne pas avancer en qualité de société civile lorsqu'il y a justement une situation qui nécessite notre action. Et c'est pour ça que je dis à tous ceux qui disent que la société civile ne fait rien, il faut se rappeler que vous êtes membre de la société civile à un certain niveau. Donc, si vous ne dites rien, n'imputez pas à d'autres personnes de ne rien dire. C'est ensemble, en fait, que l'on fait ce poids-là et que finalement, les financements que l'on cherche là, on réussit à les capter. C'est ce travail de l'ombre là, individuel qui devient collectif et qui nous permet de capter ces fonds, de capitaliser ces fonds. Et je suis d'avis et je réitère, et je pense que l'ensemble des participants seront d'accord, la société civile en Côte d'Ivoire est forte d'années d'expérience, travaille et il y a des organisations, même des organisations qui ont la reconnaissance d'utilité publique, qui l'ont eu honnêtement. Je pense qu'il y en a. Vous voyez, peut-être que le plaidoyer peut se faire au niveau de quels sont les critères et les conditions pour obtenir cette reconnaissance d'utilité publique. Parce qu'effectivement, peut-être qu'on verra certaines qui l'ont eu plus rapidement que d'autres, alors que certaines ont réellement des réalisations probantes en termes de contribution à la cohésion sociale, à la fraternité dans son ensemble, au relèvement du bien-être des populations de façon générale. Donc c'est une discussion que l'on doit avoir. Autant les partis politiques ont leur financement, on peut concevoir cela pour la société civile, tout en sachant ce que cela peut impliquer, le niveau d'impartialité que cela impliquera. C'est pour ça que le cadre qui régit justement la société civile doit être le plus, j'ai envie de dire inclusif, mais doit faire le plus unanimité et refléter les principes de bonne gouvernance. Maintenant, pour revenir à la question, celle de la relation parfois incestueuse et entre politique et société civile, et que faire? La première chose, c'est déjà mettre en lumière les bonnes pratiques, mettre en lumière aussi les mauvaises pratiques, de telle sorte que l'on sait, on identifie. Et ensuite, c'est un grand travail d'éducation. Pour faire la démocratie, il faut des démocrates, ça a été dit. Comment on trouve des démocrates? On en crée. Il faut éduquer les populations à cela. Il faut leur donner les voies et moyens pour qu'ils puissent avancer, dénoncer. Il faut qu'il y ait ce troisième pilier qui, lorsque la personne va dénoncer, sera protégée. Lorsque l'injustice sera dénoncé et que la personne qui dénonce l'injustice se verra protégée par l'ensemble de la communauté, vous verrez qu'on va reculer sur nos seuils d'affiliation, de corruption, de tout ce que l'on veut entretenir là-dedans. Et je termine avec cela. Je réitère, la société civile en Côte d'Ivoire est engagée pour des élections apaisées, inclusives, avec ou sans financement, et mène des activités sous diverses formes. Et je pense que c'est dans sa multiplicité, justement, que l'on arrive à toucher le plus de personnes. Là où moi, Wanep, je vais mener des activités avec des diplomates, j'aurai le consortium APDH, le CSI, qui va aller dans les communautés. Et c'est l'ensemble de tout cela, finalement, qui fait l'action de la société civile et qu'il faut documenter autant que faire se peut.
Messieurs, madame, je vais vous poser une question qui revient très souvent, que les auditeurs aussi nous posent. Quelle doit être la nature de l'acteur de la société civile? Est-ce qu'il doit avoir des opinions, des engagements? Doit-il militer dans un parti politique? Ou il doit être neutre? Ou bien cette neutralité, comment elle doit se décliner? Comment on peut gérer ces questions pour éviter qu'il y ait trop de sons pour embrouiller les populations? Monsieur Kouma, sur la question.
Vous savez, le meilleur juge, c'est les citoyens. Ils regardent tout le monde, ils écoutent tout le monde. Ils savent un peu qui est qui. Qui fait quoi? Votre question appelle à faire la différence entre la question de la neutralité et de l'impartialité. C'est tout un problème de culture, de société civile. Nous connaissons, beaucoup viennent à la société civile sans avoir la véritable culture. Fondamentalement, je dis à tout le monde, nous sommes des régulateurs sociaux. Nous sommes, en tant qu'acteurs de la société civile, certes des défenseurs des droits de l'homme, mais aussi et surtout des éducateurs en droits de l'homme. Ça, c'est important. Cet exercice, on le fait tous les jours entre nos aspirations, nos convictions personnelles et nos prises de position en tant qu'acteurs de la société civile. Ce n'est pas un exercice aisé. Que faut-il dire, quand et comment, sans qu'on ne vous taxe de ceci ou de cela? Nous, on en parle tous les jours. Hein. Souvent, je dis toujours aux camarades, je dis du courage. Ce n'est pas évident que tu sois compris. Donc, les acteurs de la société civile, eux-mêmes, ont besoin de formation. Si ton discours, tes actions coïncident avec ceux des acteurs politiques, mais les gens ne cherchent pas loin. On dit qu'il est toujours présent dans les meetings politiques. Il se fait toujours le relais de ce que les acteurs politiques disent. Mais tu veux qu'on te juge comment? Mais peut-être que tu es sincère dans ce que tu dis. Et c'est un exercice qui n'est pas facile. Et je le dis pour faciliter cela. Nous-mêmes, on a besoin de formation. Quel doit être le discours d'un acteur de la société civile? Ce n'est pas du tout aisé. Et puis, il faut reconnaître qu'en notre propre sein, il faut avoir le courage de le dire. On ne va pas le dire devant tout le monde. On doit assainir notre milieu. Il y en a effectivement qui ont des engagements cachés. Il suffit de regarder leurs discours, leurs actions. C'est simple à comprendre. Hein?
Monsieur Yoruba Dini, sur la même question.
Je pourrais dire que, vous savez, dans la société civile, on ne peut pas parler de neutralité en tant que tel. Parce que l'homme de la société civile, le militant des droits de l'homme, vise un idéal, la protection et la défense des droits de l'homme. Un tel monsieur ne peut pas être neutre devant la souffrance des gens. Il cherche à protéger, il cherche à défendre. Alors, parler de neutralité dans la société civile, c'est comme si rien ne vous dit quelque chose. On ne peut pas être neutre. Mais quand on veut parler peut-être d'impartialité par rapport aux animateurs ou ceux qui aspirent à animer la vie politique en Côte d'Ivoire, les gens ont leur position. Les gens ont leur vision, leur façon de voir les choses. Alors, quelle doit être l'attitude de la société civile? Elle doit avoir une attitude d'impartialité. Ça, c'est très important. S'il faut être un arbitre, elle doit être un arbitre impartial. Et c'est pourquoi, quelquefois, nous demandons à ce que les organismes qui doivent arbitrer les actions des acteurs nationaux soient des organismes qui doivent être impartiaux à tout point de vue. C'est fondamental. Vous pouvez voir aussi qu'il y a cette impression peut provenir du fait qu'il y a le manque de culture de personnes qui veulent des militants des droits de l'homme. Les gens peuvent venir pour se faire voir, les partis politiques étant trop, dans un premier temps, marqués, ils peuvent dire, bon, le thème société civile donne le sentiment qu'on est impartiaux. Donc, ils ont leur agenda caché, mais disent, bon, je crée une organisation de la société civile. Voilà, je ne crée pas un parti politique, je préfère créer une ONG de la société civile. Au-delà de ça, on voit que son discours commence à se radicaliser jusqu'à ce que 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard, vous voyez qu'il a fait le pas, l'ONG devient maintenant parti politique. Mais nous qui avons opté pour la société civile, nous sommes là depuis longtemps. Et je peux vous dire aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tous ceux qui appartiennent aux partis politiques, tous ceux qui ont fait du bruit, tous ceux qui font du bruit, ont d'une façon ou d'une autre déjà participé à la gestion du pouvoir. Pendant que nous, nous étions dans la société civile, nous les avons vus être dans l'opposition. Nous les avons vus gérer le pouvoir. Nous les avons vus perdre le pouvoir. Nous sommes en train de les voir lutter pour reprendre le pouvoir. Nous savons qui est qui. Or, les acteurs de la société civile qui sont là depuis longtemps sont toujours restés dans la société civile. Donc je voulais dire que vous les journalistes, vous ne devez pas vous laisser du moins distraire par ceux qui veulent discréditer la société civile. Vous êtes là aussi depuis un certain temps, vous savez nos actions, vous savez ceux qui travaillent de façon franche pour la société civile, vous savez ceux qui passent par la société civile pour faire autre chose. Donc vous devez faire preuve d'analyse également.
Madame Marie-Flore Begou, sur la même question,
oui.
Sur la question donc de l'engagement de l'acteur de la société civile.
Je voulais être un peu pragmatique. Comment reconnaître l'acteur de la société civile? Quelle est sa vision? Quelle est sa boussole? Nous, notre boussole, ce sont les droits fondamentaux. Les droits fondamentaux qui prennent leur racine dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc, quand tu verras un acteur de la société civile agir dans une communauté, tu verras qu'il ne fera pas de discrimination. Quand il est dans une communauté, il vient pour former, pour sensibiliser la communauté. La communauté, c'est qui? Les femmes, les jeunes, les partis politiques, les leaders communautaires. Et tu verras que dans son panier, dans son auditoire, on aura du tout, une diversité. Mais l'acteur politique, lui, quand il est dans une communauté, il va cibler ses partisans. Donc, l'acteur de la société civile qui est dans une communauté, qui ne prend pas pour repère tous ces éléments, on peut, n'est-ce pas, s'interroger sur cette personne. Mais je pense que nous, en tant qu'acteurs de la société civile, on travaille déjà beaucoup. On ne doit pas forcément se faire harakiri, quand bien même que c'est une réalité. Mais il y a des efforts qui sont faits. Aujourd'hui, la société civile s'organise. Quand tu vois un peu le paysage de la société civile ivoirienne, on a des coalitions qui se créent. On a des rassemblements. On a des plateformes d'échange. Donc, le travail se fait. Le travail se fait. Donc, il ne faudrait pas qu'on se fasse harakiri, mais il faut dire qu'on continue le travail. Et je pense que l'éducation à l'engagement citoyen doit être notre cheval de bataille en tant que société civile, de sorte que les jeunes, à la base, sachent en quelque sorte ce qu'est ce que l'activisme au niveau des droits humains. La société civile.
Amis auditeurs, vous suivez Radio de la Paix et nous sommes à l'émission Débat. Dans notre émission de débat aujourd'hui, nous parlons des contributions des organisations de la société civile ivoirienne à des élections démocratiques et apaisées. Donc, je vais faire un tour de table pour que vous puissiez nous dire, selon vous, quelles sont les conditions, les recommandations qu'on peut faire pour que 2025, l'élection présidentielle et les élections qui vont suivre se déroulent dans un contexte apaisé et démocratique. On va commencer avec vous, M. Jean-Marc Ovi. Selon vous, pour ces élections qui pointent le nez, comment faire pour que ces élections se passent bien, se déroulent bien en Côte d'Ivoire?
Alors, merci pour la parole une nouvelle fois. En premier lieu, je souhaitais relever que il y a des initiatives et des cadres d'échange qui existent entre les différents acteurs et qui permettent de relever justement parfois les cris des populations qui ne sont pas nécessairement engagées dans les organisations de la société civile, mais qui ont l'espoir de que l'on porte leur voix. À titre illustratif, et j'aimerais vraiment saluer cette initiative, avec d'autres organisations, sommes dans un cadre de partenariat avec le ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté. Et ce sont des rencontres périodiques d'évaluation de la situation, de discussion sur les sujets d'actualité que nous avons. Et je puis vous assurer, pour avoir participé et pris la parole en l'un ou de nombreuses fois, que les échanges sont très directs, très ouverts, contradictoires très souvent, mais aboutissent toujours sur la volonté de l'ensemble des parties d'échanger. Le deuxième exemple que nous avons, il est très personnel à WANEP, c'est celui du groupe national de réponse électorale, où finalement nous avons des organisations de la société civile, des structures d'administration publique et dans le cadre de projets même, des partis, des représentants des partis politiques, pour voir comme opposition qui prennent part à ces échanges, à ces travaux et qui nous permettent finalement d'analyser et d'ajuster nos interventions sur le terrain. Alors, ce n'est pas nécessairement des initiatives sur lesquelles on va faire énormément de tapage médiatique, mais qui ont leur impact sur le terrain. Il convient aussi pour nous de saluer les partenaires qui sont encore présents avec nous. Le projet IMAM est un projet du package élection qui est soutenu par l'Union européenne, par exemple. Donc, je fais d'abord cela pour dire qu'il y a des initiatives. Et justement, ces plages-là nous donnent l'opportunité de les exposer, de remercier ces partenaires-là.
Revenons à notre question. Quelles sont les recommandations que vous pouvez faire pour les élections à venir pour que ça se déroule de façon démocratique et apaisée?
C'est ça. Alors, pour répondre justement à cette question, je pense que le dialogue doit être permanent. Une fois qu'il est stoppé, on va tout de suite vers la perte parce que chacun interprétera les pensées et les positions de l'autre camp. Donc, c'est créer ce cadre de dialogue-là. C'est une responsabilité aussi de la société civile de pouvoir créer là où on voit que peut-être les partis en question ne sont plus à même de le faire ou n'ont plus cette volonté. Nous, on doit le faire. Donc, créer ce cadre-là. Ensuite, travailler au renforcement de la sécurité humaine des populations. Parce que le contexte électoral ou la violence dans le contexte électoral va reprendre en fait tous les champs de mésentente qui puissent exister. Donc, les conflits communautaires vont s'amplifier, les conflits de chefferie, les cas de criminalité peuvent s'amplifier au fur et à mesure que la tension ou le contexte va se durcir. Donc c'est de travailler à renforcer la sécurité humaine par la sensibilisation, par une coopération civilo-militaire aussi qui est renforcée, par le renforcement des mécanismes citoyens d'alerte précoce et de veille, et aussi par l'amélioration des canaux de transmission des informations et de lutte contre justement les fausses informations, les fake news. Donc voilà ce que je peux proposer.
Monsieur Yoruba Denis, sur la même question, tout rapidement, quelles sont les propositions que vous pouvez faire pour qu'on puisse, dans les années, les mois à venir, qu'on puisse aller à une élection apaisée?
Merci beaucoup. Ce que je pourrais dire dans un premier temps, c'est de prendre en compte les propositions de la société civile, les recommandations, les alertes que nous lançons. Vous savez, nous appelons à un dialogue national, que du moins les autorités prennent cet appel en compte. Il faut que nos acteurs qui sont en quête du pouvoir, puisque la plupart de ces drames partent de la lutte du pouvoir, puissent s'asseoir et dans un contexte démocratique, puissent trouver un consensus pour apaiser la vie politique. Ceci dit, je pense que c'est ce que je peux ajouter à ce que le frère vient de dire tout à l'heure.
Monsieur le Président, comment de la société civile?
Enfin, je partage en partie ce que mes prédécesseurs ont dit, qu'il y a un dialogue permanent entre les acteurs. Mais ce qu'il convient quand même de retenir, vous savez, la démocratie, son épine dorsale, sa colonne vertébrale, c'est d'abord la construction d'un état de droit. Ça, c'est fondamental. Et l'état de droit repose sur les institutions. S'il n'y a pas d'institutions, mais c'est une jungle. Il faut travailler à consolider cet état de droit et au respect de la loi. Ça, c'est fondamental. Les élections, chacun peut dire ce qu'il veut, mais ce ne sont que des élections, qu'une élection. 2025, ça va passer, mais la société ivoirienne doit continuer. Nous sommes dans une démocratie naissante en construction. Il faut être optimiste, il faut être patient. Il dit même les acteurs politiques eux-mêmes ont besoin de renforcement des capacités. Quand vous les écoutez, ils ne regardent que leurs intérêts personnels. Si des actions doivent mettre en ruine les institutions, il n'y a plus de démocratie. Pour moi, cela est extrêmement important. Donc, nous interpellons les acteurs politiques. Il ne faut rien faire pour mettre en ruine les institutions. Il ne faut rien faire pour contourner la loi. Le dialogue, c'est bon. Mais le dialogue suppose un objectif partagé. Ça suppose des acteurs qui en ont la volonté, parce que c'est important. Si vous êtes seul à parler, ça devient un monologue, un soliloque. Et ça, c'est tragique. Il faut que les partis acceptent de se parler autour d'objectifs partagés. Il faut que ça soit clair, sinon il n'y a pas de dialogue. Nous, il faut qu'on nous aide en tant qu'acteurs de cette ville. Nous, on peut jouer le rôle d'arbitre. Est-ce qu'ils veulent bien que nous-mêmes nous jouions ce rôle?
Madame Marie-Flore Bégou, présidente du consortium, qu'est-ce qu'on peut retenir en termes de recommandations pour des élections apaisées? Qu'est-ce que les propositions de la société civile?
Moi, en tant que mes recommandations, je dirais qu'on est dans le viseur, le passé récent de la Côte d'Ivoire, le boycott de 2020 est encore présent dans nos esprits, sans parler même de 2010. Alors moi, mes recommandations, déjà à l'endroit du gouvernement, c'est déjà de créer des plateformes d'échange et de collaboration. Et à ce sujet-là, on veut saluer le ministère de l'Intérieur qui a une plateforme d'échange avec la société civile. Aussi, il y a le ministère de la Cohésion sociale qui, n'est-ce pas, travaille en étroite collaboration avec la société civile. Il faut multiplier ce genre d'initiatives, ce genre d'actions au niveau, de sorte qu'il y ait une synergie d'actions pour que chacun, effectivement, sache où est-ce qu'on s'en va pour qu'on travaille dans une seule vision. Puisque, comme l'a dit M. Koumou tout à l'heure, les élections passent. Mais la nation reste. À la société civile, c'est vrai que nous sommes confrontés à un défi de financement, mais nous devons continuer notre travail. Continuer de dialoguer, nous sommes un pays de paix, un pays de dialogue. Et nous, en tant que société civile, je pense que nous sommes mieux placés pour être les garants de cette valeur que nous a laissé le père fondateur. Donc continuons d'échanger, continuons de travailler au niveau de nos communautés, avec les populations, pour que effectivement il y ait la paix. Et aux femmes, c'est vrai que nous, en tant que femmes, dans notre passé, nous n'avons pas lutté pour avoir le droit de vote, mais le positionnement demeure une lutte pour nous. Et aujourd'hui, on a le droit, n'est-ce pas? On a des tests qui propulsent, n'est-ce pas, la femme comme un acteur important dans la construction de la démocratie. C'est vrai qu'il y a des questions traditionnelles, VBG, violence basée sur le genre, mais s'il n'y a pas de paix, si la démocratie n'est pas établie, je ne pense pas que nous, en tant que femmes, on pourrait, n'est-ce pas, s'épanouir dans cet état. Donc, appeler les femmes à agir, à beaucoup plus d'actions dans nos maisons, partout où nous sommes. Soyons des porte-voix de la paix. Et à ce sujet, moi, je veux saluer le ONEP Côte d'Ivoire, le ONEP Régional, qui travaille depuis plusieurs années à mettre les femmes au devant de la scène dans le processus électoral, que ce soit en tant qu'observatrice, en tant qu'analyse, en tant qu'observatrice. En tout cas, le ONEP travaille aujourd'hui à mettre en avant les capacités, le potentiel des femmes dans le processus électoral. Et ça, c'est une pratique à saluer et à démultiplier. À la population, je dirais que n'oublions pas 2010. Donc chacun, jeune, femme, homme, nous devons avoir à l'esprit la paix et travailler. Celui qui vient vers nous, que s'il soit politique, demandons-lui son agenda. Est-ce que l'agenda de cette personne cadre avec notre vision de la Côte d'Ivoire? Et aux partenaires internationaux, n'est-ce pas, de soutenir la Côte d'Ivoire, de soutenir la Côte d'Ivoire.
Monsieur le Président, comment de la société civile?
Au niveau de la CSI, il y a trois actions majeures que nous menons par rapport aux élections qui arrivent. La première action, c'est vraiment un travail de sensibilisation et d'éducation au niveau central et à travers nos 31 coordinations régionales. C'est un travail qui se fait tout le temps en direction des populations. Deuxième chose que nous menons, chaque fois quand il y a des élections, nous avons un programme de rencontre avec les partis politiques. On l'a fait dans les années passées, on a fait en 2020, on a commencé encore pour 2025. Il y en a qui nous ont déjà reçus et c'est le même discours que nous tenons. Ce que je viens de donner comme conclusion, nous disons c'est vrai, on essaie de prendre vos préoccupations. Et chaque fois, si on a la possibilité de rencontrer le parti au pouvoir ou les autres acteurs, on pourrait partager ça avec eux. Nous faisons en sorte que le dialogue puisse s'instaurer. Et la troisième action que nous avons toujours menée, c'est l'observation électorale. On le fait vraiment de grandeur nature, hein. La CSI, bon, les anciens savent ce que c'est que la CSI. Sans moyens de l'État, nous nous sommes donné toujours les moyens de faire l'observation électorale. Et cette année, 2025, pour garantir l'intégrité et la sincérité des élections, nous sommes en train de donner les moyens à travers la formation de nos observateurs qu'on va faire bientôt avec les organisations membres. La PDH est membre de la CSI. Ils participeront tous à la formation en tant qu'observateurs. Et puis nous allons vraiment faire l'observation à court et long terme pour vraiment rassurer les populations pour dire nous avons regardé, nous avons vu. Et voilà ce que nous avons retenu, sans dire que tel a gagné, tel a perdu.
Merci beaucoup, chers invités de la société civile. Nous avons débattu du thème « Contribution des organisations de la société civile ivoirienne à des élections démocratiques et apaisées en 2025 ». Et j'avais pour invité M. Mamadou Kouma, il est le président du conseil d'administration de la Convention de la société civile ivoirienne. J'avais pour invité également M. Abraham Yoruba Denis, Il est le président de l'APDH-SI, Action pour la protection des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. J'étais également en compagnie de Madame Marie-Flore Begou, coordinatrice nationale du consortium des organisations féminines de la société civile. Également, j'étais en compagnie de Monsieur Jean-Marc Ovi, il est le coordonnateur du WANEP, le réseau ouest-africain pour l'édification à la paix. Merci, messieurs, d'être venus à Radio de la Paix pour débattre de cette problématique. Nous vous donnons un rendez-vous pour débattre de d'autres thèmes sur ce même plateau relativement aux élections. À très, très bientôt. Merci beaucoup.
Ben Diakité.
C'était les grands débats.